à voix nue, Emmanuel Loyer, je m'entretiens avec
Monique Lévi-Strauss.
Aujourd'hui, premier épisode, une enfance dans le judéo-passy. Monique Lévi-Strauss, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
On vous connaît aujourd'hui non seulement parce que vous avez un nom illustre de la science anthropologique, celui de votre mari, Claude Lévi-Strauss, mort en 2009, mais aussi parce que depuis quelques années, vous parlez en votre nom propre. D'abord dans un livre de souvenirs sorti en 2014 et dans un livre d'entretien, là, qui a été très récemment publié. Monique, vous avez atteint l'âge vénérable de 99 ans. Et à votre manière, vous distillez une sagesse du siècle que vous allez nous raconter, en même temps que votre vie, qui a d'ailleurs débuté, je crois, dans cet appartement où nous sommes aujourd'hui, dans le 16e arrondissement de Paris, à deux pas de la maison de la radio. Vous êtes née en 1926, Monique Roman, issue par votre mère d'un judaïsme cosmopolite et belge par votre père. Vous grandissez dans ce que vous appelez le judéo-passy, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Dans cet appartement même où nous sommes aujourd'hui, mais entouré de meubles chinois parce que vous avez été conçu à Shanghai.
Oui, mes parents ont fait leur voyage de noces en Extrême-Orient parce que mon père était appelé à présider à la construction de voies ferrées autour de Shanghai. Il avait un contrat, ils ont passé leur première année de mariage, leur lune de miel, en Extrême-Orient.
Donc dans l'appartement, il y avait des meubles chinois, et aujourd'hui, on est dans cet appartement, on voit la tara indienne, là par exemple.
La tara verte, une grande peinture sur étoffe qui vient du Tibet.
Donc c'est un appartement d'ici et puis d'ailleurs. Cet immeuble, il a été créé, vous m'avez dit, en 1926-27.
Oui.
C'était quoi l'ambiance de Passy dans ces années 20-30, enfin, parce que c'était sans doute très différent.
Eh bien, dans ces années 20-30, quand cet immeuble a été construit, rue des Marronniers, sur le grand parc du château de Passy, on avait une vue sur Meudon, sur la Seine, sur tout ce qui se passait en dessous de nous, on avait une très grande vue. Et puis, à partir des années 30, on a commencé à construire des immeubles et peu à peu, toute la vue s'est bouchée. Alors, je ne vais pas me plaindre, je suis au 5e étage, j'ai encore un grand ciel, mais je ne vois plus la Seine de chez moi et je vois à peine un morceau de la colline de Meudon.
Alors, comme votre mari était anthropologue de la parenté, on n'a qu'à faire un peu comme on fait en anthropologie de la parenté.
Oui.
Commencer par votre lignage maternel. Du côté de votre mère, on est un peu dans le Paris, je dirais, de la grande bourgeoisie juive, avec des grands-parents qui viennent d'ailleurs.
Les parents de ma mère étaient... Ma grand-mère était une bonne américaine de Pittsburgh, juive, et... Mon grand-père était de la bonne société viennoise. Enfin, son oncle, le frère de mon arrière-grand-père, était un ami de Freud.
Oscar Rie,
oui. Il était pédiatre et il soignait les enfants de Freud. Ils étaient très amis et surtout, ils jouaient aux cartes ensemble. Parce que ça comptait beaucoup, paraît-il, à l'époque.
Tout ce monde-là se retrouve à Paris et vit, ce monde-là, c'est-à-dire vos grands-parents. Donc, lorsque vous êtes petite fille, vous êtes un peu dans cet univers de cousinade,
mais
très prospère.
Il faut que je vous dise, pas à ma naissance, parce que je suis l'aînée des petits-enfants de ma grand-mère, mais quand j'ai eu 20 ans, nous étions 17 petits-enfants. Et quand il y avait des réunions de famille, il y avait toujours ma grand-mère, mon grand-père était mort. Et les 17 petits-enfants, et vous voyez, tous les ans, enfin, c'était une très grande famille, assez prospère.
Très prospère même.
Enfin oui, faut pas exagérer, c'était pas les Rothschild. Enfin, il y avait de l'argent à volonté, disons. Et ma grand-mère, elle a été veuve dès 1930, mais elle a gardé sa maison au Mont Valérien. Et c'était une maison très agréable où on se réunissait toutes les semaines avec un jardin d'un hectare, ce qui était pas mal quand même aux environs de Paris. Et surtout, il y avait une vue sur le champ de course de Longchamp. Et donc, à l'époque, l'amusement des enfants, c'était d'aller sur les terrasses où il y avait une longue vue et de suivre les courses à Longchamp. Et on pouvait même lire les numéros au dos des jockeys. On adorait ça, et puis on pariait même. Enfin, il passait des tas de choses, là. Donc, nous aimions beaucoup passer les week-ends chez ma grand-mère.
Une chose qui m'a toujours étonnée chez vous, c'est votre capacité. C'est pas pour rien que vous avez épousé un anthropologue, notamment de la parenté, parce que justement, toutes ces cousinades, ces grandes familles, vous avez une grande capacité à... Le beau-frère de la sœur de mon oncle, de ma tante, vous voyez très bien de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui vous est familier.
Oui, mais je pense que c'était dans toutes les familles juives, au moins, oui. On était très, très conscients des parentés. Oui. Et ça, ça venait probablement du fait que les juifs ont été énormément ballottés. Et donc, il fallait qu'ils s'y retrouvent de loin, à savoir qui on était exactement, si on était le beau-fils ou le fils ou le cousin ou l'oncle ou l'adopté. Enfin, tout ça, c'était les parentés étaient très importantes, puisque en fait, les parentés remplaçaient les patries pour les juifs qui étaient quand même expédiés, pas seulement d'un pays à l'autre, mais d'un continent à l'autre. Enfin, il y avait ceux qui avaient émigré aux États-Unis, il y avait ceux qui étaient en Amérique du Sud, il y avait ceux qui étaient en Océanie ou en Australie, et il fallait savoir la géographie et les parentés, tout ça chez les Juifs, ça comptait, c'était le réseau familial.
Donc là, c'est vous nous décrivez en effet une géographie très large et oui. En même temps, vous dites que vous grandissez dans un tout petit monde des Juifs du 16e arrondissement qu'on appelle chez vous le judéo-passy.
C'est par dérision qu'on appelait ça comme ça, parce qu'on en riait beaucoup. Enfin, dans ce monde-là, on était profondément antiraciste. Donc on en avait assez des clans, assez des gens qui s'épousaient entre eux, disons.
Et les Juifs n'épousaient pas des Juives ? Enfin, c'était, il n'y avait pas,
pas forcément d'intermariage ? Non, pas forcément. C'était pas du tout une obligation. On voulait se montrer libérés. Ma mère était née en 1902 et toutes ses amies étaient nées à peu près à la même époque. Et les gens, enfin, qui étaient nés au début du siècle, ils voulaient montrer qu'ils étaient affranchis du racisme et de l'intermariage. Ils étaient complètement affranchis aussi des religions.
Ils ne pratiquaient pas,
Non.
C'était des juifs laïcs, c'est ce qu'on appelait des israélites en France.
Oui, c'est ça, c'était des juifs laïcs et qui avaient tous épousé des goïs. Tous les amis de ma mère avaient tous fait comme ma mère, ils avaient épousé des goïs, les femmes ou les hommes.
Oui, vous parlez de Clara Malraux, qui était une amie, elle est née...
Malraux, il n'était pas juif.
Oui, et elle était Goldschmidt.
Oui, c'est ça. Mais c'est comme ma mère, elle était juive, elle avait épousé un flamand. Il y avait des femmes pas juives qui épousaient des juifs. On voulait montrer que tout ça ne comptait plus et qu'on était contre le racisme et le nazisme. Parce que il faut vous dire que dans les années 30, la bourgeoisie à laquelle appartenait ma mère, cette bourgeoisie du 16e arrondissement, faisait de gros efforts financiers et matériels pour accueillir tous les juifs persécutés en Allemagne. Parce que le nazisme, ça date de 1933. Hein. Et depuis 1933, les juifs et les alliés aux juifs fuyaient l'Allemagne. Il fallait bien les recueillir. Donc ma mère faisait partie d'un groupe qui logeait les arrivants, qui leur donnaient de l'argent, qui leur trouvaient du travail. C'était un devoir presque sacré d'accueillir tous ces gens qui fuyaient le nazisme. Enfant, on entendait tout le temps parler d'Hitler et du nazisme et des horreurs dans les camps de concentration.
Ah oui, c'était présent, on parlait de camp de concentration,
bah oui,
vraiment.
Puisque, si vous voulez, toutes les amies de ma mère avaient formé des groupes pour accueillir les gens qui émigraient. Et ils arrivaient avec une petite valise. Hein. On les laissait pas sortir ni avec de l'argent, ni avec des meubles, ni rien. Il fallait les nourrir, les loger, leur trouver du travail.
Vous parliez d'Oscar Rie tout à l'heure. Freud arrive à Paris, enfin, il y restera pas, mais...
Non,
chez
il va
Marie
en Angleterre.
Bonaparte, il va en Angleterre, voilà.
Oui,
mais quand
ça.
Même en 38.
Ah ben oui, mais si vous voulez, ma mère faisait partie de tous ces groupes d'accueil parce qu'ils arrivaient, mais en masse. Hein.
Mais je parle de Freud parce que votre mère, par ailleurs, était en psychanalyse.
Ma mère, elle était comme toutes ses copines, elles étaient toutes en psychanalyse. Ça n'existait pas d'être une bonne bourgeoise et de pas être en psychanalyse.
Juive, le fait qu'elles étaient juives, ça jouait.
Ah non, quelle que soit l'appartenance. Une bonne bourgeoise, disons, affranchie, elle allait forcément en psychanalyse.
Avec René Laforgue, c'était vous m'avez dit.
Oui, ma mère était chez René Laforgue, oui.
Tout ce milieu, ce petit milieu, vous avez découvert par la suite que la famille de Claude et la vôtre étaient en fait apparentés dans une sorte du judaïsme alsacien.
Voilà.
Et Claude n'avait pas été particulièrement surpris de cela.
Non, pas du tout, pas du tout. Alors, disons, Claude venait d'une famille qui tirait le diable par la queue, parce que son père était peintre, c'était un bon peintre, mais qui ne vendait pas beaucoup de tableaux. Donc, à partir du 20 de chaque mois, il y avait de grosses difficultés pour payer. Et donc, c'était des années, disons, difficiles. Mais son arrière-grand-père avait été le chef d'orchestre de Napoléon III. Et ça, c'était les années fastes. Et les grands souvenirs de la famille, c'était sous Napoléon III. Il y avait de l'argent dans la famille, il était très bien payé. Et même Napoléon III et l'impératrice ont passé 2 jours chez l'arrière-grand-père de Claude à Vichy. Et après leur départ, ils ont donné un très beau bijou à l'arrière-grand-père de Claude que possède actuellement mon fils.
Et votre père, alors, parce que on a parlé du lignage maternel, et parlez-nous de votre père.
Alors, mon père était belge, pas juif du tout, flamand d'origine. Il était le dernier d'une famille de 4 enfants, et quand il est né, sa mère avait déjà un amant et ses parents se sont séparés. Donc, à 6 ans, on l'a mis comme apprenti boulanger. Donc, il gagnait sa vie à 6 ans, mon père. Ça vous marque une enfance, hein ?
Oui, c'est sûr.
Il en parlait d'ailleurs sans amertume pour ses parents. Simplement, ses parents avaient divorcé, il avait 6 ans, on ne savait pas quoi en faire. Sa mère avait un amant, elle n'avait pas besoin d'avoir un dernier né. Donc, elle l'avait mis comme apprenti boulanger. Et mon père a dû subvenir à ses besoins, donc, à partir d'un très petit âge. Et il savait ce que c'était. Et il en parlait avec beaucoup d'humanité. Il a gagné sa vie. Et puis, quand même, de temps en temps, son père était photographe. Il avait un atelier de photographie et il faisait des portraits. Au début du XXe siècle, quand on était photographe, on faisait des portraits. C'est comme ça qu'on gagnait sa vie. Et donc, de temps en temps, son père le reprenait et puis on le mettait dans une école pendant quelques semaines et puis de nouveau, il n'y avait plus d'argent et il fallait qu'il se débrouille. Il n'a pas fait d'études, mais il savait quand même qu'on apprenait beaucoup en classe. Et quand la guerre est arrivée, en 1914, mon père, qui était né en 98 du siècle dernier, mon père avait 16 ans. Et il s'est dit que la seule chance qu'il aurait, c'est d'être volontaire à la guerre, de faire une belle guerre, et qu'après ça, probablement, on lui paierait des études. Enfin, que oui. L'État lui paierait des études comme remerciement. Donc, il a menti. on n'avait pas de papier à l'époque. Il a dit qu'il avait 18 ans alors qu'il n'avait que 16 ans. Et il a été enrôlé dans l'armée à 16 ans. Donc il a fait la guerre de 14, de 16 à 20 ans. Il a été blessé 3 fois, mais il s'en est sorti. Et il était même sous-officier, je pense.
Et il a en effet eu des études payées par l'État.
Quand on avait fait la guerre, qu'on avait été blessé, on avait le droit d'entrer à l'université sans examen, à condition de passer un examen au bout de l'année. C'est ce qu'il a fait, et pendant cette année où il a été à l'université, il a rattrapé toute l'école. Il est arrivé à être au niveau du bachot, si vous voulez, pour passer l'examen d'entrée. Il a vraiment fait de gros efforts. Il voulait étudier. Il savait que la seule manière de vivre, c'était d'avoir fait des études et d'avoir des diplômes. Donc, il a eu le diplôme d'ingénieur. Et il a même eu une bourse pour Harvard.
Oui, donc c'est une success story. Votre père, c'est tout à fait différent du milieu de votre mère. C'est un peu une ascension sociale quand même très...
C'est-à-dire, il était très intelligent et il avait une imagination formidable.
Et il a épousé votre mère. Pas du tout le même milieu.
Pas du tout, mais ils se sont retrouvés comme Européens faisant des études en Nouvelle-Angleterre. D'accord. Mon père était à Harvard puisqu'il avait une bourse et ma mère avait fait les 2 dernières années d'un collège à Boston pour avoir le degré, si vous voulez, de master. Donc, tous les deux étaient étudiants, mon père à Cambridge et ma mère à Boston. Et il y avait très peu d'Européens qui étudiaient, ils se retrouvaient toujours les week-ends. Et ma mère était très charmée par mon père. Elle pensait qu'elle ne se marierait jamais parce qu'elle était très myope et portait des grosses, grosses lunettes. Mon père la trouvait pleine d'esprit. C'est vrai qu'elle était assez marrante. Et puis, elle était jolie. Quand elle enlevait ses lunettes, c'était une jolie femme. Mais quand elle avait ses lunettes, c'était pas beau. Et donc, ils se sont épousés. Et mon père a tout de suite eu un engagement en Extrême-Orient, à Shanghai.
Voilà, donc on revient au début, là.
Oui.
C'est là que vous arrivez. Alors, je voulais juste passer un peu les années, parce que votre père a eu à plusieurs reprises des décisions importantes dans la vie de famille. Une première décision, c'est, à un moment donné, vous quittez Paris, vous allez dans le Berry, dans une propriété familiale. Et juste, je vous en parle, parce qu'il me semble que là, il y a tout un apprentissage de la vie rurale, qui est resté après chez vous très présent, les fleurs, les arbres, la connaissance, les fruits
ah
et
oui.
les légumes, etc.
Alors, donc, à partir de l'âge de 8 ans, je me suis trouvée dans le Berry, habitant à 3 km de Bourges. On allait en bicyclette au lycée. Nous avions 4 hectares autour de la propriété, avec 2 potagers, un potager au sud, un potager au nord, et j'ai su ce que c'était que faire ses légumes. Il y avait un verger, je savais ce que c'était que cueillir les fruits, faire les confitures. Enfin, j'ai vraiment appris ce que c'était que la vie à la campagne.
Et c'est un moment important aussi parce que vous qui étiez donc de mère juive, même non pratiquante, non religieuse, etc., vous vous faites baptiser et vous passez votre première communion.
J'étais élève au lycée de filles de Bourges et tout le monde était catholique. Et moi, je ne l'étais pas. Et quand il y avait Histoire Sainte, eh bien, on me disait, toi, tu vas aller t'asseoir à l'étude. Et j'étais comme en punition, j'étais assise toute seule à l'étude, pendant qu'elle, on leur racontait l'Histoire Sainte, qui est quand même merveilleuse. Enfin, ce sont des aventures formidables. Elle m'en parlait après à la récréation. Et moi, je disais à maman, mais moi, je suis privée de tout ça. En plus, elles vont faire une première communion. Et là, elles ont une robe, c'est aussi beau qu'une robe de mariée. Puis moi, j'aurais rien. Enfin, je me sentais frustrée. Énormément frustrée. Et ma mère a vu que, enfin, de ne pas être catholique à Bourges, où toutes mes copines étaient catholiques, où j'étais la seule, c'était vraiment me mettre en punition. Elle en a parlé à mon père, Et il a dit, ben, s'ils veulent qu'on les baptise, on les baptisera, fait, demande-leur. Alors maman a demandé à mon frère et moi, est-ce qu'on avait envie de devenir catholique comme les copains? Et alors, bien sûr, moi j'ai dit, j'aimerais bien être exactement comme eux. Donc, on a organisé notre baptême, ça s'est fait en petit comité. Et puis après, j'ai fait ma première communion. Il y a une première communion qui est toute simple, et puis ensuite la vraie communion avec une belle robe comme les autres. Enfin, j'ai compris que tout d'un coup, je devenais comme les autres, et c'était tout à fait bienvenu dans ma vie.
Mais vous avez souffert de l'antisémitisme, que ce soit à Paris ou à Bourges ?
Ah non, je ne peux pas dire que j'ai souffert, mais on aidait beaucoup les émigrés juifs, ça oui, je savais qu'ils étaient persécutés.
J'en non, mais très... vous comme juive, même pas française, vous étiez
oui.
Belge.
J'ai absolument pas souffert de ça.
Alors, quel genre de petite fille ou d'adolescente, là vous avez une dizaine d'années, vous semblez être assez observatrice, j'ai l'impression, et assez vite au courant finalement de ce qui se trame aussi dans les rapports entre les hommes et les femmes. Vous dites dans votre livre d'entretien, j'avais appris à ne m'étonner de rien, mais je savais me taire.
Ah ben oui, parce que tout de même, maman aidait beaucoup les émigrés. Et donc on nous demandait d'en prendre, si vous voulez, pour leur faire des vacances et choses comme ça. Donc on avait tout le temps, on avait une très grande maison, et on avait tout le temps du monde à la maison, et parfois c'était des gens épouvantables, des enfants mal élevés, enfin vous voyez, et c'était pas de leur faute, parce qu'ils avaient été chassés d'un pays, ils n'avaient pas de manière, mais on nous les collait d'office. Et je me souviens, un jour, mon frère et moi, on a décidé d'aller voir les parents et de leur dire ce qu'on pensait. Ah, les parents étaient absolument sidérés, parce qu'on était d'accord, mon frère et moi. On a dit aux parents que c'était très gentil d'avoir bon cœur, c'était très gentil de recevoir tous les émigrés qui étaient chassés des pays, mais que tout de même, il y avait un moment où on atteignait les limites, et que de nous coller des enfants infernaux qui nous faisaient beaucoup souffrir, sous prétexte qu'il fallait être généreux, ils allaient trop loin et qu'il fallait s'arrêter. Et les parents, ils ne savaient plus quoi dire, parce qu'on était tellement d'accord, mon frère et moi, on a dit, votre générosité sur notre dos, ça a des limites. On les a vraiment engueulés.
Mais vous allez avoir, là encore, c'est votre père qui a cette décision, on verra ça dans notre deuxième entretien, mais il décide, par une lubie linguistique, d'une certaine manière, de vous emmener en Allemagne. Alors, on ne va pas parler de l'Allemagne maintenant,
oui.
Mais qu'est-ce qui explique une
Alors,
chose
mon père avait été abandonné par ses parents, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on l'avait mis à gagner sa vie tout seul à 6 ans. Et mon père voulait faire tout le contraire pour nous. Il avait des enfants et il considérait que le grand cadeau qu'on fait à ses enfants, c'est de leur apprendre les langues avant 18 ans. Parce qu'il savait, comme il avait parlé le flamand et le français dans son enfance, il savait que, disons, avant 18 ans, on apprenait les langues très très facilement. Et son idée, c'était que pour être bien formés, nous savions déjà le français et l'anglais parfaitement, il voulait que nous sachions l'allemand et le russe. Il disait, c'est indispensable de savoir l'allemand et le russe. Or, mon père était un très bon ingénieur, qui avait donc fait des études aux États-Unis, puisqu'il avait eu une bourse, et il était prisé par beaucoup de ses collègues en Allemagne et en Russie. Et donc, on lui avait proposé des contrats pour l'Allemagne et la Russie. Et pour l'Allemagne, il avait un contrat de 2 ans. Il a accepté ce contrat pour que nous sachions parfaitement l'allemand. Et tout de suite après, il avait un contrat en URSS où on l'appréciait beaucoup. Et là, on aurait appris le russe, tout ça avant 18 ans. Donc, on aurait été quadrilingue. Enfin, oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Quadrilingue, au lieu de ça, il fait une sorte de harakiri familial, d'une certaine manière.
Oui.
Et c'est étonnant de savoir, a posteriori, c'est toujours difficile de comprendre ce que les contemporains comprennent eux-mêmes du présent. Parce qu'aller à la fin des années 30 dans l'Allemagne nazie, avec une femme juive et deux enfants, c'est...
C'était délirant.
Délirant, oui,
c'était
voilà.
Délirant. Et toute la famille de ma mère, qui était juive, a dit à mon père, mais tu peux pas aller avec ta femme juive en Allemagne, mais imagine ce que c'est. Oh, il a dit, on ne nous fera rien, nous sommes belges. Alors, à table encore, à l'heure actuelle, ça fait rire toute une tablée quand on dit, le père de Monique, il disait... Il ne nous arrivera rien, nous sommes belges.
En même temps, c'est aussi, je trouve, une façon de s'interroger sur le fait que nous, évidemment, on connaît la fin de l'histoire. Mais c'est un peu comme quand Claude, votre mari, retourne en 1940 pour prendre son poste à Henri IV, alors qu'il est juif et qu'on est en plein Vichy.
Oui.
C'est compliqué, la perception qu'on peut avoir.
Les gens étaient presque aveugles sur les vraies circonstances. Oui,
vous étiez aveugle comme jeune fille, vous aviez 12 ans.
Ah non, moi j'avais été en Allemagne avant, parce que avant 39, en 38, j'avais fait un échange. Mon père avait des rapports avec des ingénieurs allemands, et donc un ingénieur avait une fille, et mon père avait dit on va échanger nos filles. Donc sa fille était venue chez nous un mois, et ensuite j'étais repartie avec elle un mois en 38.
Et vous aviez saisi l'ambiance politique ?
Oui, absolument. Et j'ai pas voulu retourner en Allemagne, moi j'avais compris. Parce que j'allais où le lycée commençait en septembre en Allemagne. Donc on avait fait l'échange, mais j'allais au lycée allemand avec elle. Je ne voulais pas y retourner. Je disais à maman, c'est pas possible. D'ailleurs, je sais que si j'avais été à la place de ma mère, j'aurais demandé le divorce. Et avec de bonnes raisons, puisque ma mère était juive, elle aurait pu demander le divorce et dire la raison pour laquelle je ne veux pas y aller, c'est je suis notoirement d'une famille juive, je ne veux pas aller en Allemagne. Et je pense qu'elle aurait eu le divorce.
En tout cas, elle ne l'a pas demandé et vous êtes retrouvée en Allemagne.
Oh, mais elle adorait mon père, elle était à genoux devant mon père.
Bon, on verra lors du deuxième entretien ce que sera ce séjour dans l'Allemagne nazie. Merci Monique. C'était « À voix nue », Monique Lévi-Strauss. Réalisation Jean-Philippe Navarre, chargé de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Emmanuel Loyer, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.